Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons cette série intitulée « Quelle est la suprême intention ?» Aujourd'hui, nous arrivons à l'étude numéro 6 et le titre de notre étude sera « La croix ». Dans trois dimensions. La croix dans trois dimensions. Plus nous saisirons du point de vue de Dieu l'intention suprême représentée par la croix, mieux nous comprendrons comment l'Église primitive a pu, en quelques années, envahir et conquérir le monde d'alors. Mais si nous nous émerveillons de ce qui s'est passé si rapidement par son moyen, nous pourrions être plus émerveillés encore en pensant à ce que Dieu pourrait faire dans ces derniers jours. Il n'y avait rien de très mystérieux chez ces premiers croyants. Ils étaient simplement une démonstration vivante de la croix dans trois dimensions. En tant que principe, la croix représente un mode de vie divin. En tant que lieu, elle est l'endroit où ce mode de vie divin entre en conflit avec le mode de vie terrestre. En tant que puissance, elle est le moyen que Dieu emploie pour faire son œuvre à travers les siens. Voici un bon exemple. Bien entendu, l'impact était tout différent il y a pas plus de 25 ans. C'était tout autre chose et cette histoire vraie, ce témoignage, avait donc une importance tout autre qu'aujourd'hui avec les nouveaux gadgets électroniques. Il y avait donc deux garçons qui se trouvaient au tribunal pour avoir saccagé un train de voyageurs. Et aujourd'hui, avec les tags et tout, ça coûte au chemin de fer des centaines de millions. Alors, devant le juge, ils ne manifestèrent aucun signe de regret ou de repentir. Monsieur le juge, dit l'aîné en ricanant, la seule chose, voyez-vous, que je regrette, c'est d'avoir manqué les fenêtres. Sans explication, le juge amena les coupables chez lui dans sa voiture, les fit descendre au sous-sol et leur fit voir un réseau compliqué de petits trains électriques. Les deux garnements regardèrent leur hôte avec des yeux incrédules quand il les invita à se mettre aux commandes et à organiser le trafic. Du reste, ils s'y mirent avec précaution, mais ils furent bientôt très fascinés. Le juge jetait sur eux un regard de satisfaction en les voyant tout absorbés par les merveilles de la voie ferrée. Son plan allait donner quelque chose. Et quand vint le moment de dévoiler ce plan, il regarda les garçons bien en face et il leur dit « Eh bien, les gars, que diriez-vous si je vous les donnais ? Pour toujours, bien sûr. Ou si j'ai décidé, en effet, de vous les donner, de vous en faire cadeau, si vous les voulez. » Alors un long silence a suivi. Finalement, un des garçons, le visage baigné de larmes, c'est donc quelque chose d'inattendu, articula dans un sanglot. Et il dit, « Mais Je ne comprends pas du tout. Nous avons été tellement méchants. Et maintenant, vous nous donnez tout ça à nous. Pourquoi ? Et l'autre d'ajouter, Monsieur le juge, nous ne méritons pas quelque chose d'aussi beau. Ils étaient brisés tous les deux et ils pleuraient. Ils supplièrent le juge de leur pardonner et promirent que plus jamais ils ne feraient de si vilaines choses. C'est un des garçons qui est maintenant un homme devenu un homme et qui raconte cette histoire. Ce juge nous a conduits à Christ et il est devenu pour nous vraiment un père spirituel. Sans la sagesse dont il a fait preuve envers deux mauvais garçons, je ne siégerai pas aujourd'hui, moi, comme juge chrétien, à la barre de ce tribunal. Grâce donc à un jeune magistrat qui manifesta l'amour et la compassion de Christ face à l'inimitié et à l'esprit enténébré de deux mauvais garçons, Dieu rendit son cœur accessible à leur conscience. Gloire à Dieu. En raison de leur volonté indépendante et égoïste, ces jeunes étaient entrés en conflit avec la loi. Mais le heurt le plus significatif se produisit entre la haine irraisonnée que ces deux garçons avaient dans le cœur et l'amour inexplicable qu'il y avait dans le cœur du juge. Au point de jonction entre la haine de l'homme et l'amour de Dieu, il y a toujours une croix. On oublie souvent cela. Voyez-vous, la croix, elle devient un lieu et elle se localise. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, le glorieux conquérant venu d'en haut, quand il est venu apporter à ce monde enténébré un nouveau mode d'existence, une nouvelle raison de vivre et une divine philosophie, deux voies entrèrent continuellement en conflit. La voie du dépouillement est toujours la dénonciation de celle du gain. La première de ces méthodes jette toujours une lumière crue sur la seconde quand elle la rencontre. Et avec Jésus-Christ, Satan a cru, oh oui, il a cru de pouvoir faire vibrer la corde de la revendication. L'heure du conflit suprême avait donc sonné. Satan ne comprenait que trop bien le but de la mission de Jésus-Christ pour ce qu'il venait accomplir. Et l'ennemi savait que son ministère, celui de Jésus-Christ, allait aboutir à la destruction finale de son royaume. Ainsi le prince de ce monde, l'ennemi juré de tout ce qui est vrai, ne cessa jamais de faire obstacle à l'œuvre de Christ pour tâcher d'en finir avec lui. Et nous avons vu comment Jésus-Christ a répondu aux tentateurs dans le désert, rappelez-vous. Par trois fois au cours de la tentation, il a mis en lumière le mode de vie céleste et la philosophie céleste dont il est le produit. Répondre aux suggestions de Satan en faisant quelque chose pour lui-même ou de lui-même n'eût pas été en harmonie avec son don total de lui-même au Père. Et quand le diable lui offrit les royaumes de ce monde pour lui épargner la croix, il n'en fut pas ébranlé dans sa résolution. Satan, voyez-vous, est toujours opposé au principe de la croix. Christ, bien au contraire, le met toujours en évidence. La tentation au désert, cette tentation est une de ces rencontres où la croix s'est localisée. Et il y en a eu bien d'autres. Car voyez-vous, pendant les 3 ans que Jésus-Christ vécut parmi les hommes, il ne cessa de dénoncer leur égoïsme et leur comportement intéressé, dévoilant leur recherche d'eux-mêmes, de tout ce qu'il y avait de perversité dans les mobiles qui les inspiraient. Et personne ne pouvait rester neutre devant lui. Les hommes devaient ou bien l'accepter, lui, et sa divine manière de vivre, ou bien trouver des arguments pour le rejeter et se débarrasser de lui. Et c'est ici la leçon que nous avons à apprendre. Celui qui, dans sa vie journalière, adopte la croix comme principe destiné à être enraciné en lui, deviendra lui-même une croix. Oui, une occasion constante de conflit par sa muette dénonciation de tous ceux qui prennent un autre chemin et vivent sur une autre base. C'est sa personne qui engendrera la situation dans laquelle la croix se localisera. Lorsque la croix, en tant que principe, fait une œuvre complète, elle met tout à nu et soulève ainsi partout une opposition. Mais, voyez-vous, celui qui emprunte ce chemin est continuellement fortifié par une puissance divine. Ainsi, la croix, enracinée au-dedans, elle devient, entre les mains de Dieu, une démonstration permanente de puissance. Mais il y a peu de chrétiens qui se rendent compte que la seule raison qui puisse engager Dieu à les revêtir de puissance, c'est qu'ils perdent leur vie pour lui. Oui, en effet, nombreux sont ceux qui se sont mépris sur la véritable signification de Actes, chapitre 1, verset 8, où il est dit « Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. » Voyez-vous le mot traduit par « témoin » et « martus », ce qui signifie « martyr ». Et trop souvent, notre attention s'est concentrée sur la puissance pour qu'elle nous rende capables de faire quelques exploits, ébranler les foules, devenir de grands libérateurs. Il y en aura sans doute des exploits, et les foules seront effectivement remuées, mais la vérité plus profonde, c'est que si nous sommes au bénéfice d'une énergie divine, c'est pour ne pas aimer notre vie jusqu'à craindre la mort. À l'origine, les mots « témoin » et « martyr » étaient devenus interchangeables parce que les témoins ne permettaient à aucune considération de réduire leur témoignage au silence. Aimeriez-vous connaître cette énergie divine dans votre vie, chers amis? Alors, observez cet homme, Étienne. Oui, Étienne. Il était plein de grâce et de puissance. Il faisait de grands prodiges et des miracles parmi le peuple. Notez Actes des Apôtres, chapitre 6, verset 8. Il rend témoignage devant le Sanhédrin que Jésus-Christ est vraiment le Christ. Mais il met le comble à son témoignage en perdant sa vie pour celui qui est mort pour lui. Or, qu'arrive-t-il? La puissance de la croix manifestée autant sur sa face rayonnante que dans les termes de son message déploie des effets inattendus et grandioses. Elle s'empare de Saul de Tarse. Saul de Tarse qui assistait à l'exécution. Ce persécuteur, car c'était un des pires persécuteurs de l'Église, il est devenu un apôtre qui démontra plus que tous les autres le glorieux triomphe de la croix. Dans une apparente tragédie, la mort d'un jeune homme qui venait d'entrer dans un puissant ministère, nous pouvons voir, en considérant les choses du point de vue de Dieu, oui, la croix dans ses trois dimensions, et comme principe, en action dans la vie d'Étienne, la croix le conduit à proclamer la vérité sans se soucier des conséquences auxquelles il peut s'attendre. Comme lieu, elle se localise ici dans un conflit avec le Sanhédrin. Et comme puissance, puissance explosive, elle saisit un orgueilleux pharisien qui trouve dur de régimber contre les aiguillons. Ce n'est pas par un principe seulement que Saul de Tarse fut saisi, mais par une puissance vivante. Je répète, ce n'est pas par un principe seulement que Saul de Tarse a été saisi, mais par une puissance vivante. Et de cette leçon de choses, nous concluons que Dieu interprète la croix comme un principe vivant, comme un lieu, et finalement comme une puissance dynamis par laquelle il brise les cœurs et les rectifie complètement, les tournant vers lui. Donc, pour Étienne, la rectification qu'il opéra en lui fut si complète que ce principe de la croix ira opérer dans une autre vie et prolongera ses effets comme une réaction en chaîne. C'est de cette façon-là que Dieu procède à l'expansion spontanée de son œuvre. Avec tout cet arrière-plan, nous sommes maintenant en mesure d'apprécier la déclaration de saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. La prédication de la croix est une folie pour tous ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Ce divin principe de la croix, quand il est exprimé en langage simple, est une pure folie pour celui qui a adopté un mode de vie égoïste. Mais là où ces deux modes d'existence entrent en conflit, il en résulte un scandale. Et c'est là, oui là, que Dieu libère son énergie divine sous forme d'une puissance explosive qui a pour but de rectifier l'homme en le transformant de fond en comble. Une telle rectification et changement est si complète que le principe de la croix qui l'a provoquée fera sentir ses effets dans une autre vie et le miracle se renouvellera continuellement. Chers amis, laissons-nous donc émerveiller en pensant à ce que la croix peut encore faire si elle nous trouve préparés à l'accepter. Qu'importe donc ici l'opprobre, les blessures, ces passagères flétrissures, tu les connais aussi. À tout, je dis adieu. Je ne veux de couronne que dans la gloire de ton trône, oui, mon Seigneur, car tu es mon Dieu. Chers amis, quelqu'un qui a trouvé de la joie pendant bien des années a considéré toute chose du point de vue du Père et il a fait cette très sage observation. Le besoin le plus impérieux de l'heure, ce n'est pas tellement d'enrôler de nouvelles recrues sur la voie du service de Dieu, bien qu'il en faille toujours, mais c'est plutôt de venir au secours des multitudes qui sont déjà dispersées dans le monde. Ils sont partis, ces hommes et ces femmes, mais pour diverses raisons, ils sont maintenant, on peut dire, déconcertés, ils sont peut-être même égarés, absents de la ligne de feu. Ce n'est pas à augmenter notre effort que nous devons viser, mais à obtenir de cet effort un meilleur rendement. Pourquoi y en a-t-il si peu qui laissent vraiment Dieu réaliser son intention suprême dans leur vie? Dans les études suivantes, nous espérons mettre à découvert quelques-unes des raisons pour lesquelles les chrétiens sont si souvent mis en échec. Ce qu'il faut à beaucoup d'entre eux, c'est de bien faire ces nouvelles distinctions. Quand nous commençons vraiment à avancer sur la voie de Dieu, par excellence et pour son plaisir, pour sa satisfaction, eh bien, son honneur et sa gloire, le visage tourné donc vers lui, nous laissons derrière nous des multitudes de croyants. Je répète, quand nous commençons vraiment, vraiment à avancer sur la voie de Dieu par excellence, pour son plaisir, pour sa satisfaction, son honneur et sa gloire, alors le visage tourné vers lui, nous laissons derrière nous des multitudes de croyants. Et beaucoup de chrétiens, en effet, s'imaginent s'être engagés sur cette voie, mais ils se trompent, car seul le chemin de la croix permet d'y marcher. Et c'est à cette vie-là que nous avons été destinés, et cela dès le tout commencement. Il n'existe nul autre voie. D'autres enfants de Dieu vont se débattant avec eux-mêmes. Ils ont le désir sérieux d'embrasser le chemin de la croix, mais sont déconcertés par ce qu'ils rencontrent dans la vie. Et beaucoup se sont laissés charger et opprimer par des problèmes imaginaires, inventés et imposés par l'ennemi, qui est déterminé à rendre cette voie céleste impossible. impossible à suivre et différente de ce que Dieu a voulu. Mais, il ne peut pas arriver à ses fins. Il n'y parviendra pas, surtout si nous savons discerner ce qui nous arrive. Car Dieu nous a tracé un chemin si clair que n'importe qui peut le suivre, et cela sans trébucher ni s'égarer. Donc la première chose que nous voyons ou que nous ayons à apprendre, c'est de reconnaître la source. N'oublions jamais de reconnaître la source de nos difficultés. Viennent-elles de Dieu, ces difficultés, ou viennent-elles de l'ennemi? Sont-elles le résultat de facteurs naturels, ou d'un choix réfléchi, ou irréfléchi, que nous avons fait? Chaque pas en avant exige de nous une appréciation exacte de la différence des choses. Notez Romains, chapitre 2, verset 18. Car plus nous avançons, plus il est nécessaire que ces distinctions gagnent en finesse. Si Dieu permet que leurs difficultés grandissent, c'est pour nous garder plus près de lui, semble-t-il. Et c'est ainsi que nous apprenons dans chaque difficulté à connaître sa pensée et à découvrir ses intentions. Les difficultés les plus communes rencontrées par le croyant peuvent se classer en quatre groupes. Le châtiment éducatif, la moisson de ce que nous avons semé, l'oppression et l'obstruction. Le chrétien doit apprendre, oui, il doit apprendre à faire ces distinctions. Le châtiment éducatif, ce châtiment est un acte de Dieu. La moisson, elle est donc l'aboutissement d'un processus naturel. L'oppression est le fait de l'ennemi, et il en est de même de l'obstruction. Parallèlement à ces difficultés-là, la croix que nous avons à porter est bien au contraire un chemin de vie choisi de plein gré par le croyant qui vit pour Dieu. Ce que je vais dire à ce sujet, cela engage que moi, car personnellement, je crois que Jésus-Christ a porté la croix pour nous et à notre place. Cela ne veut pas dire que nous allons pas devoir affronter des problèmes très désagréables durant notre vie. Quand Dieu donne de la verge au dos de ses enfants, a remarqué quelqu'un, il ne leur demande pas la permission. Pour le croyant, le châtiment n'est volontaire que par le fait qu'ayant choisi de faire la volonté de Dieu, il sait très bien que toute désobéissance lui vaudra un juste châtiment. Étant pour nous le Père céleste, Dieu a donc le droit, oui, le droit, pour notre bien éternel, de nous appliquer la verge. Et il sait le faire avec sagesse. Bien que le châtiment puisse être, sur le moment, un sujet de tristesse, il y a toujours un heureux aboutissement quand le Père accueillera un homme, une femme mûrie, un fils, une fille, et que nous entrerons alors dans les privilèges qui s'attachent à cette promotion. Car Dieu châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils et ses filles. Supporter le châtiment, c'est comme des fils et des filles que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Notez Hébreux, chapitre 12, versets 6 et 7. Quand j'ajoute filles et femmes, c'est pour que certaines personnes ne soient pas attristées et pensent que Dieu parle toujours, il est vrai, de fils et d'homme, mais dans la Bible, ça veut dire les deux. Et je dois donc parfois le répéter pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Chers amis, la moisson est le résultat de la loi naturelle de cause à effet. Si vous restez trop longtemps au soleil, il est naturel que vous en subirez bientôt les effets cuisants ou que vous allez peut-être déclarer avoir un mal de tête. Ça peut arriver. Nous serions donc abasourdis si nous apprenions la somme de misère qui est imputable à la violation inconsidérée des lois naturelles, même chez un chrétien. La nature se charge elle-même de nous infliger le châtiment qu'elle nous doit. Voyez-vous, il y a deux autres formes de difficultés éprouvées par les chrétiens résolus de marcher avec Dieu et d'entrer dans son plan, c'est l'oppression et l'obstruction de Satan. C'est un semeur d'obstacles, Satan, et ses méthodes sont légion. Il se sert parfois de l'affliction pour obséder l'entendement, pour nous tourmenter l'esprit. Plus souvent, c'est dans notre sphère habituelle, notre sphère d'activité qui vient simplement se faufiler. Et Christ, il était prompt à déceler l'origine de tels obstacles, rappelez-vous, qu'il s'agit de l'apôtre Pierre ou de l'ennemi se servant de l'apôtre Pierre. Daniel, du reste, savait très bien quand c'était l'ennemi qui mettait son œuvre en échec ou en retardait l'accomplissement. L'apôtre Paul n'était pas aveugle aux entraves que lui suscitait Satan. Voyez et notez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 18. Sur cette voie par excellence de l'accomplissement de l'intention de Dieu, la chose essentielle est naturellement de nous occuper de notre Seigneur. Mais nous ne ferons guère de progrès si nous ne découvrons pas la nécessité qu'il y a pour nous de toujours être vigilants et de savoir discerner les ruses de l'ennemi. Mais porter sa croix, ça c'est quelque chose de tout différent. La croix, la vraie, ne vient jamais sans être sollicité, alors que la verge est toujours imposée. Certaines épreuves surviennent comme des conséquences naturelles. L'ennemi est toujours là, il est là pour nous susciter des entraves sans invitation. Dieu, de son côté, est toujours à la recherche de tous ceux qui s'engageront sur le chemin de la croix sans considération pour ce qu'il en coûtera au moi personnellement. Je suis du reste convaincu qu'il est non seulement possible aux croyants de savoir quelle est sa croix, mais que c'est son devoir de savoir la reconnaître. Sur le chemin de Golgotha, le Seigneur s'écria « Prends ta croix et suis-moi ». Vous pouvez vérifier. Il n'expliqua pas ce qu'il entendait avant d'avoir passé lui-même par la mort et d'être entré dans la vie qui est au-delà du tombeau, élevé à la droite du Père. Il révèle par l'apôtre Paul quel est le sens de sa croix et en plus ce qu'elle réclame de chacun de ceux qui veulent le suivre. L'apôtre Paul ne dit jamais « Prenez votre croix ». Il proclame que la croix de Christ a déjà triomphé et il invite le croyant à entrer dans le triomphe du Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 4, qu'il nous donne le sens de la croix que nous avons apportée. Après avoir décrit son propre ministère, il indique la cause des difficultés auxquelles il se heurte, portant toujours dans notre corps la mort du Seigneur Jésus-Christ, afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. Verset 10, et on a dit 2 Corinthiens, chapitre 4. Ce que cette phrase représente pour chacun individuellement, le Saint-Esprit est peut-être seul à pouvoir le faire connaître. Mais en réalité, c'est toujours Christ qui, de nouveau, perd sa vie en nous et par nous, en faveur des autres. Avez-vous compris? Je répète, en réalité, c'est toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui de nouveau perd sa vie en nous et par nous, et tout cela en faveur des autres. La vocation qui consiste à adopter la manière divine de vivre, qui est un processus de mort, est un privilège que nous choisissons de plein gré. Il ne nous est jamais imposé. Il n'a rien à voir, comme on l'imagine souvent avec les épreuves qui sont communes à toutes les sociétés humaines, afflictions, maladies incurables, perte d'argent ou même la mort d'un être aimé. Dire de l'une de ces choses, c'est ma croix et je dois la supporter à cause de lui, de Jésus-Christ. Cela dénote un malentendu fondamental sur la véritable nature de la croix dans le sens où nous l'entendons ici, un principe intérieur qui fait partie de la constitution même des pèlerins de la voie céleste. Un jour, un ami intime me posa fort opportunément la question « Quelle est votre croix ?» Je n'avais alors qu'une idée assez générale du sujet sur lequel une discussion fraternelle venait de s'ouvrir. Mais quand mon interlocuteur commença à me serrer de près pour obtenir une réponse, je reçus par le Saint-Esprit une impression indélébile qui me marqua pour la vie. « Votre croix, précise mon ami, c'est de réaliser la vocation spécifique pour laquelle Dieu a mis la main sur vous. Elle se présente spontanément dès que vous entrez dans le ministère particulier auquel Dieu vous a préparé, que vous soyez une pasteur ou que vous soyez un diacre. La croix est différente pour chacun de nous. Et j'ai compris immédiatement ce qu'il entendait. Incompris, persécuté, cet homme tenait tête depuis des années à l'opposition la plus tenace pour marcher dans l'obéissance à ce qu'il estimait être l'intention suprême de Dieu, et cela pour sa vie personnelle. En observant de près la vie de ce frère, je me rendis compte que si un enfant de Dieu adopte le mode de vie céleste, eh bien il peut s'attendre à être un peu malmené, malmené de la façon la plus outrageuse par ceux, oui, par ceux qui essayent de neutraliser son influence. Voyez-vous, quand un chrétien est déterminé, ou une chrétienne, à obéir à Dieu à tout prix, le pire qui lui arrive n'est pas déclenché par les puissances de l'enfer, mais ses meilleurs amis, sa parenté, tous ceux auxquels il ou elle est attaché, ce sont ceux-là qui considéreront comme leur devoir envers Dieu de lui aider à retrouver, selon eux, la bonne voie et des conceptions plus saines de la vie, telles que les biens matériels, les précieux liens de famille, la position sociale. Il ne faut pas s'étonner si Jésus-Christ a averti tous ceux qui voulaient le suivre qu'ils devraient se détacher, hélas, de tout ce que je viens de citer. Mais il est une joie intérieure qui est bien connue de tous ceux qui sont prêts à tout endurer pour atteindre le but. Avec le Seigneur Jésus-Christ, qui tourna sa face vers Jérusalem pour y réaliser le dessein du Père, nous pouvons la partager, cette joie. Quand il appelle, il n'y a pas d'autres issues. Il faut le suivre. Ce n'est que par le chemin de la croix qu'on peut réaliser une destinée qui est divine. Donc, le chemin de la croix, ce n'est pas porter la croix nous-mêmes et ceux qui perdent pour lui, pour Jésus-Christ, la vie, qui perdent la santé, la réputation et tout le reste, supportent avec joie les viriles souffrances de leur vocation. L'acceptation du chemin de la croix appelle un mot d'avertissement. Quand il survient une difficulté, soyez bien au clair sur son origine. Un serviteur de Dieu spécialement qualifié formula un jour cette exhortation. Écoutez bien. « Heureux serez-vous, a dit notre Seigneur, lorsqu'on vous outragera et qu'on dira de vous toutes sortes de mal. Est-ce là tout ? Non, non, non. il ajoute deux petites choses, faussement du mal, et cela à cause de moi, à cause de votre Seigneur. Ces mots indiquent que ces souffrances doivent avoir été choisies volontairement comme faisant partie du choix plus général de Christ et de sa justice. Si les accusations qui pleuvent sur moi sont fondées, il ne suivra bien sûr aucune bénédiction, évidemment. Nous nous trompons nous-mêmes, poursuit-il, quand nous essayons de prendre notre juste châtiment pour une croix et que nous nous réjouissons de quelque chose dont nous devrions plutôt nous repentir. Car quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance quand vous faites ce qui est bien, ça c'est une grâce devant Dieu. Notez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 20. La croix est toujours sur le chemin de la justice. Nous ne sentons la douleur de la croix que lorsque nous souffrons par amour pour Jésus-Christ et parce que nous l'avons bien voulu. Il est donc important de savoir discerner la source. Oui, voyez-vous, la plupart de nos difficultés ont quelque chose à nous apprendre. À certaines d'entre elles, qui sont des obstacles suscités par l'ennemi, nous devons opposer une ferme résistance, et d'autres doivent nous amener à l'humilité et à la repentance. Il est dès lors très important de savoir lequel doivent être endurés, ou lesquels plutôt, doivent être endurés avec patience, et même, parfois, pourquoi pas, avec joie. Le chrétien est sans cesse ramené à la prière pour s'enquérir auprès du Seigneur au sujet de quelques formes d'adversité qu'il rencontre sur son chemin. Par la sagesse reçue d'en haut, il ou elle discerne la source de ses épreuves et réagit avec intelligence et maturité. À mesure que nous grandissons dans le Seigneur et accomplissons pour lui le ministère qu'il nous a confié, nous pouvons faire nôtre le témoignage de saint Paul. Quand il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1, c'est pourquoi, ayant ce ministère, nous ne perdons pas courage. Et il répète au verset 16, nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est le cas pour tout un chacun, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nous regardons, mes très chers amis, aux choses qui sont éternelles. Alléluia. Le point de vue éternel a pour effet de rendre nos difficultés fructueuses en devenant un moyen pour parvenir à un but. Si nos vies sont entièrement assujettis au Seigneur, nous pouvons avoir l'assurance que rien ne nous atteint sans sa permission. En toute chose, nous avons de quoi rendre grâce. Merci Seigneur. Même la nécessité d'un discernement prudent est en soi une source de grande bénédiction, car elle nous maintient dans l'humble position du disciple, de quelqu'un qui apprend. Savoir que nous dépendons du Seigneur nous engage à suivre comme des brebis, toujours confiantes en leur berger. À tout moment, par des chemins variés, ce berger nous fait passer par des expériences destinées à nous mettre à l'épreuve. Il y est fait allusion dans la première épître aux Thessaloniciens, où l'apôtre parle de Dieu comme de celui qui sonde les cœurs. Cette expression si simple explique ce que Dieu fait. Il nous éprouve, il nous fait passer un test et il pénètre jusqu'aux sources les plus profondes de notre être. Il nous sonde pour savoir comment nous réagissons à l'épreuve. De notre point de vue, un tel traitement ne peut que nous paraître dur. Mais le Seigneur établit toujours ses plans pour que nous sortions de ses mains éprouvées, dans le sens de 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. « Je crois qu'un bon nombre de nos circonstances et de nos expériences se trouveraient allégées si nous pouvions avoir cette clé pour les interpréter. C'est la pensée de Dieu que nous en sortirons fortifiés et éprouvés. Il est malheureusement possible aux enfants de Dieu de succomber spirituellement sous l'épreuve et d'être éprouvés. Cela m'est malheureusement aussi arrivé. Pour la plupart des chrétiens, la chose la plus difficile est peut-être de reconnaître que certaines épreuves ont un fondement purement spirituel, tout à fait indépendant des circonstances. Une certaine obscurité, par exemple, peut fondre sur nous. C'est une sorte d'apathie. Plus que cela, j'ai une amie pasteur où cela est arrivé parfois, et à moi aussi, je le reconnais. Un poids, une sorte de détresse, un abattement, un ras-de-bol, même une mélancolie ou un étrange sentiment de l'irréalité des choses. La situation devient donc pour nous un banc d'essai spirituel, oui, une pierre de touche. Allons-nous accepter cette sombre intrusion ou allons-nous nous dresser contre elle et refuser de vivre dans une telle atmosphère? Quelle libération fut la mienne quand je compris enfin qu'il n'était pas dans la pensée de Dieu que je me laisse étouffer par cette ambiance impossible. En la surmontant, il est important de réaliser que ce ne sont pas les circonstances qui doivent changer, mais l'atmosphère qu'elles ont créée. Une dernière précaution avant de terminer par la prière. Chers amis, prenons garde aux croix que nous nous fabriquons nous-mêmes. Nous n'aurons jamais besoin d'aller bien loin pour les trouver, et celles que nous nous inventons nous-mêmes sont de double croix, parce que, n'étant pas dans la volonté de Dieu, elle n'apporte ni force, ni consolation, ni fruit. Telles sont, par exemple, les croix qui surgissent de nos craintes de l'avenir. Ces craintes si déprimantes, et j'en sais quelque chose. Nous n'avons pas le droit d'anticiper, ni d'essayer de remplacer sa providence par une providence de notre cru. L'avenir aura le visage que Dieu voudra aussi, et cela, c'est à nous de lui faire une totale confiance. Je voulais dire, avec un peu d'humour, on ne gagne pas toujours à à toutes ces choses où on peut gagner. Mais nous pouvons gagner avec certitude absolue en étant et en restant fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ jusqu'au bout, même si nous avons parfois des moments pénibles à passer. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cette heure où nous désirons nous approcher de toi par la prière, il est doux de penser qu'un grand nombre d'autres âmes, elles te cherchent aussi, et qu'à ce même instant, ton Saint-Nom est invoqué et béni par d'autres disciples de ton divin Fils. Ces actions de grâce et ces supplications s'élèvent vers ton trône éternel des parties les plus éloignées de la terre. Elles sont exprimées dans des langues diverses et avec des formes de culte divers aussi. Mais là où il n'y a qu'une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, et c'est l'unité promise par Jésus-Christ, notre Sauveur, à tous ceux qui lui ont été donnés par son Père. La foi en Christ, en sa divinité, en son sacrifice, en la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés, en l'esprit d'adoption, telle est l'unité dans laquelle tous les rachetés, Seigneur, sentent qu'ils sont véritablement frères et sœurs, et s'ils sont frères et sœurs, ne doivent-ils pas s'aimer, se supporter, s'assister mutuellement? Ne doivent-ils pas écarter toute injuste prévention, toute intolérance? Aimons-nous les uns les autres, a dit l'apôtre chéri du Seigneur, et prions les uns pour les autres, oui, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin. Seigneur, tu entends les requêtes et tu vois si les cœurs dont elles sortent sont animés d'une foi sincère. Nous te supplions de faire naître d'augmenter, ô Seigneur, cette foi qui devrait se trouver en nous, dans nos âmes et dans celles qui ne la possèdent pas encore. Que toute chair puisse voir ton salut. Ô Seigneur, reçois donc nos humbles actions de grâce et garde-nous tous par ton Esprit Saint de sainteté et de vérité. afin que nous soyons véritablement unis en toi. Amen. Et chers amis, je vous mets un peu de musique d'autrefois. Quand il y a plus de 50 ans, j'avais fondé une mission sur cassette. Évidemment, les cassettes, c'est évidemment vraiment du passé. Et la qualité du son est naturellement pas du tout pareille. Mais l'essentiel, c'est de recevoir quelque chose par ces chants d'autrefois dans notre âme, dans notre esprit et dans notre cœur. À bientôt à nouveau pour demain, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.
Il m'a parlé de paix, il a rempli mon cœur, avec lui à jamais j'ai le bonheur. Jésus est ma lumière, il est mon sûr-abri, ma vie il éclaire, sa main me conduit. À lui je regarde, tout au long des jours, toujours il me garde, dans son grand amour. Vous qui luttez en vain, fatigué dans la nuit, Jésus vous tend la main, venez à lui. Jésus est ma lumière, il est mon sûr-abri, ma vie il éclaire, sa main me conduit. Je regarde tout au long des jours, toujours il me garde dans son grand amour.